L'énéagramme. Alors l'énéagramme, vous savez que c'est proposé au centre des Nodières, à Nantes, hein, au centre de Aumont, à côté de Lille, et dans un certain nombre aussi d'exercices spirituels. Hein. Parfois, on propose quelques clés d'énéagramme pour mieux se connaître soi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'énéagramme, non ? Alors, on va essayer de rentrer. Hein, là. Oui, voilà. Par exemple, le clerc propose aussi des sessions d'énéagramme. Hein. Donc, on va essayer d'y revenir et puis d'aller à la source de l'énéagramme. Parce que, si vous voulez, quand on survole un peu la question, on ne voit pas immédiatement ce qui pourrait être éventuellement incompatible avec notre foi. Et puis, ça peut être aussi des outils, on présente ça comme des outils de connaissance de soi, qui d'une certaine manière peuvent être éventuellement neutres. Voilà. Si on ne fait que survoler la question, c'est comme toute méthode, toute technique, finalement, on n'en voit pas le fond, si vous voulez. Ou en tout cas, voilà, ce qui a présidé à cette conception de l'homme et finalement du monde d'une manière globale. Il se trouve que l'énéagramme a comme concepteur, en tout cas, c'est lui qui a introduit ça en Occident, c'est Gurdjieff. Est-ce que vous avez entendu parler de Gurdjieff ? Gurdjieff est un homme rusé qui était un caucasien et qui est venu en France dans les années 1920. Et il a tout de suite séduit un certain nombre d'intellectuels, d'artistes, parce qu'il était en possession de quelques clés d'initiation qu'il avait pu avoir dans sa jeunesse avec les soufis ou avec des bogomils qui est une... En Bulgarie, il y a les bogomils qui sont les ancêtres des albigeois. Vous voyez, hein, on est dans des sphères du manichéisme. Voilà. Donc Gurdjieff arrive avec un outil en 9 points. On en reparlera. Pour dire un petit peu l'influence de ce Gurdjieff, c'est que il a eu comme disciple Aldous Huxley. Ça vous dit quelque chose, Aldous Huxley ? C'est le meilleur des mondes. Les portes de la perception. Un des grands chantres du mouvement hippie. Hein. Vous savez, le mouvement hippie était très référent à Aldous Huxley. Les portes de la perception, Aldous Huxley parle aussi de ses expériences avec le LSD. Il faut explorer toutes les limites. De manière illimitée, toutes les possibilités, tout le potentiel humain. Voilà. Mais en France, nous avons eu quelqu'un qui a été adepte aussi de Gurdjieff. Il a même écrit un bouquin très épais, c'est Louis Powels. Vous connaissez Louis Powels ? Il a été éditorialiste au Figaro. Donc vous voyez, on est dans les milieux intellectuels parisiens. Il y a eu un certain nombre d'architectes, etc. Jean-François Revel, vous savez aussi, éditorialiste, je crois que c'était Au Point, me semble-t-il, hein, il a été aussi dans cette mouvance. Donc, vous voyez, ce n'est autre que le père de Mathieu Ricard, vous savez, hein, celui qui se recommande du Dalai Lama. Donc, vous voyez un peu dans quelle perspective nous sommes. Il a beaucoup séduit le milieu intellectuel et artiste. Un homme probablement illettré, un espèce de goujat, mais perspicace et opportuniste, dont l'intelligence était tout entière tournée vers la manipulation des autres, suscitant chez ses adeptes une totale soumission, mais l'inversion de leur notion élémentaire du bien et du mal. Ces personnes, dans ces hautes initiations, ont dépassé les notions communes de bien et de mal. Et l'homme initié est précisément celui qui s'est débarrassé de toutes les scories d'une éducation et de toutes les lois morales. Donc il est arrivé en France en 1921. Et dès 1922, il a pu acquérir une propriété à Fontainebleau, le prieuré d'Avon, grâce à des fonds levés par un de ses premiers disciples, le journaliste russe Ouspensky. Et Ouspensky a écrit notamment « Rencontre avec des hommes remarquables » ou « Fragment d'un enseignement inconnu ». Donc on est là vraiment dans des initiations ésotériques très subtiles. Voilà. Et Gurdjieff s'est beaucoup intéressé également à la théosophie d'Elena Blavatsky. Cette Blavatsky que l'on va rencontrer la prochaine fois, puisque je vous l'avais dit la dernière fois, elle a été transformée en Blavatsky dans Harry Potter. Et Blavatsky est la grande prêtresse, d'une certaine manière, de la théosophie, la grande théoricienne de tous ces courants théosophes du 19e et du début du 20e, qui a nourri aussi, avec Annie Besant, Rudolf Steiner et l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Peut-être que ça vous dit quelque chose, hein, Rudolf Steiner, c'est l'anthroposophie, c'est l'agriculture agro-biodynamique. Ce sont les produits Velleda que vous connaissez peut-être, hein, voilà. Donc vous voyez, dans un courant écologique. Voilà. Et donc, il a conceptualisé, en tout cas proposé comme outil précisément d'initiation, cet énéagramme. Alors, tout peut y entrer, si vous voulez. Chacun peut y apporter son manger. Si on est musicien, on va pouvoir trouver des correspondances, notamment avec la loi du 7. Si on divise 10 par 7, les chiffres qui arrivent donnent des connotations qui peuvent rentrer en correspondance et des musiciens peuvent s'y retrouver, hein, etc., etc. C'est-à-dire qu'on peut faire rentrer l'ensemble des connaissances dans ce prisme à 9 pointes. Voilà. Donc tout peut y rentrer, le chamanisme, le bouddhisme, tiens j'ai oublié de ramener un livre, la kabbale juive, l'arbre séphirotique des kabbales juives dont parle aussi votre Annick de Souzenel. Je dis ça aux Angevins puisque Annick de Souzenel est venue s'implanter dans un prieuré non loin d'Angers. Je ne sais pas si vous connaissez prieuré Saint-Augustin, hein, avec là aussi un syncrétisme absolument éhonté. Si on décrypte les différentes icônes qu'il y a à l'entrée de ce prieuré et à l'intérieur, nous rentrons là dans des perspectives extrêmement syncrétistes. Comme d'ailleurs donc la perspective d'Annick de Souzenel qui révèle à travers l'arbre des séphirotes, là je parle un petit peu peut-être hébreu, mais on est là dans des initiations, si vous voulez, ésotériques, qui nous proviennent de la Kabbale juive. Eh bien, il y a des rabbins qui se sont servis de la Kabbale juive pour les faire rentrer à l'intérieur de la perspective de l'énéagramme. Nous sommes là dans des courants ésotériques. Vous voyez, si vous allez vous promener à la FNAC, dans les librairies, vous avez votre rayon ésotérisme et occultisme. Ce que je vous dis là, c'est en permanence dans tous ces bouquins que vous allez y trouver. Hein. Et ce sont des livres qui... il y a 30% d'augmentation de ce type de livres par an. Hein, c'est dire qu'il y a un certain nombre de lecteurs, qui peut-être pas forcément dans nos milieux chrétiens et catholiques, mais beaucoup de gens sont en recherche de sens et vont puiser à l'intérieur de ces traditions ésotériques dont on voit les librairies et les rayons chaque jour prendre un peu plus de place sur le rayon philosophie ou religion traditionnelle. Voilà. Il est important aussi de considérer que là, nous ne sommes pas dans la réception d'un savoir ou d'une connaissance ou d'une théologie ou d'une révélation. Nous sommes avec Gurdjieff et dans tous ces mouvements de développement personnel dans le développement où l'on va expérimenter. Donc on met de côté le savoir, on met de côté l'intellect, on met de côté la raison pour expérimenter. Chacun doit faire son propre, sa propre expérience. Bien entendu, il y a le maître hein, qui guide, mais chacun doit expérimenter ce qu'il est en train de vivre. Nous voyons là quelque chose qui correspond à l'histoire du serpent, hein, où les petits serpents font chacun leur expérience, n'ont pas besoin d'être reliés à l'éducation que pourraient leur donner leurs parents ou quelqu'un d'autre avant. C'est très important, vous voyez, chaque personne est autonome, reçoit une autonomie, si vous voulez, hein, et donc n'a à dépendre de personne. Bien entendu, il y a le maître qui guide, mais chacun doit expérimenter, sans être référent à une quelconque tradition. Alors, avec Gurdjieff, c'était des efforts intenses sur le plan physique, sur le plan aussi de l'ascèse, sur le plan alimentaire, mais également sur le plan de veille prolongée. Et tout ça permet à l'esprit d'être un petit peu plus malléable et un petit peu plus docile à finalement ce qui est donné à vivre. Et l'adepte doit faire en permanence des efforts d'introspection. Appelé travail. On va en permanence s'auto-regarder en train de faire ces exercices. Décortiquer son propre fonctionnement psychique, éradiquer sans merci tout ce qu'il avait pensé, cru, savoir auparavant. Vous voyez, il y a comme on fait place nette pour être en disponibilité de l'expérience qui advient. Il s'agissait de se défaire de la fausse personnalité, selon Gurdjieff, qui lui était induite par la société et par l'hypnose collective. On verra que cette hypnose collective qui est décriée par Gurdjieff, en fait, il met ses adeptes sous forme d'hypnose. Voilà. Pour Gurdjieff, cet état de conscience a été recherché par les fakirs. Il y a donc trois voies, celle suivie par les fakirs, qui vont faire des mortifications de type physique, par les moines, c'est la deuxième voie, qui contrôle l'aspect émotionnel, et par les yogis, qui travaillent sur le mental. Eh bien, Gurdjieff parle d'une quatrième voie. Cette voie permet la synthèse et bien plus rapidement, précise-t-il, grâce à une certaine petite pilule. Or, Gurdjieff propose également d'avoir des petites pilules psychotropes qui permettent effectivement d'élargir les champs de conscience. Et nous verrons que des adeptes aussi de Gurdjieff, un des adeptes s'appelle Timothy Leary. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Timothy Leary, c'est la politique de l'extase. Et Timothy Leary a eu dans les années, fin des années 60, début des années 70, une aura considérable chez les étudiants aux États-Unis. C'était le mouvement hippie et c'était l'expérience du LSD. Le LSD permettant d'élargir tous les champs de conscience et de permettre, d'après Timothy Leary, de se débarrasser des scories de l'éducation et de la morale. Il faut dire que son grand fluide ou son grand magnétisme lui permettait de faire des conquêtes à n'en plus finir sur le plan de sa sexualité, qui était absolument vorace et assez pénible. Un certain nombre de gens ont décrit ça, hein, notamment Powell, et puis voilà. Il était vraiment un jouisseur, et un jouisseur qui n'avait pas beaucoup d'éducation, rustre, mal fagoté, qui sentait pas très bon, mais qui avait ce pouvoir de persuasion et cette emprise incroyable. Si j'insiste tant sur Gurdjieff, c'est précisément que Un autre gourou a été un des adeptes de Gurdjieff. Ce n'est autre que le gourou Maharishi Mahesh Yogi. Le gourou Maharishi Mahesh Yogi, c'est la méditation transcendantale. De temps en temps, on entend des réémergences de cette méditation transcendantale. Il y a encore des adeptes en France. Et vous voyez, hein, tant l'anthroposophie de Steiner et la théosophie, qui est plutôt une synthèse gnostique occidentale, et l'apport de l'hindouisme, mais d'un certain hindouisme, avec le Maharishi Mahesh Yogi, vous voyez, Gurdjieff se retrouve un petit peu au centre de ces grands phénomènes de société, parce que ça a beaucoup influencé. Steiner a influencé le New Age, hein, Blavatsky, Besant, la théosophie, et le gourou Maharishi Mahesh Yogi a beaucoup influencé aussi par la médiation des Beatles. Vous avez un disque des Beatles qui s'appelle Abbey Road, où vous avez un sage hindou, mais barbu et chevelu, qui les précède. Ce n'est autre que Maharishi Mahesh Yogi. Vous voyez comme quoi il y a une sorte de ramification. Il ne faut pas faire de synthèse trop rapide, mais vous voyez, il y a des courants comme ça qui traversent notre société et qui peuvent trouver des points de convergence. Gurdjieff en est un, la quatrième voie en est un, et nous verrons combien dans l'énéagramme, dont nous allons quand même parler, hein, puisque c'est... Mais il faut aller voir les fondements. C'est très intéressant de repérer les filiations. Les filiations. De qui se recommande telle ou telle méthode. Et ne pas rester à la superficialité de ce qui est présenté. Voilà. Donc Gurdjieff cherchait aussi, hein, il était gros buveur, grand mangeur, etc., baratineur, fabulateur. Il était un peu de la race des Raspoutines, vous savez, hein, quelqu'un un peu, voilà, mais qui avait une aura considérable. Selon ses adeptes, Gurdjieff cherchait intentionnellement à choquer afin de rebuter d'emblée ceux qui n'avaient pas la pénétration suffisante pour voir au-delà des apparences. Son aspect rebutant était aussi pour lui une perspective initiatique, d'aller au-delà de ce que l'on peut voir, pour aller chercher, vous voyez, encore une fois, au-delà du bien et du mal. À l'époque de Gurdjieff, bien entendu, on ne parlait pas de développement de potentiel humain, et encore moins de manipulation mentale, du moins en ces termes. On peut considérer Gurdjieff comme le précurseur, à plus d'un titre, et sa quatrième voie comme une école de formation des gourous. Et donc, Gurdjieff considérait que les parents étaient les moins aptes à s'occuper de leurs enfants parce qu'ils étaient trop faibles avec eux. Donc, vous voyez, nous sommes là déjà dans des perspectives de rupture de lien dans une filiation éducative, morale. Voilà. Gurdjieff est mort en 49. Son héritage semblait se réduire à une peau de chagrin. Il y a eu beaucoup de scissions, beaucoup de tensions. Mais Madame de Salzmann, une des premières adeptes, s'empara des rênes du mouvement et la fondation Gurdjieff fut créée. Le siège de cette fondation, aujourd'hui, se trouve en Suisse. On peut parler, à partir de là, d'une nébuleuse de groupes gurdjieffiens qui se recommandent de Gurdjieff ou pas. Les activités faisant aujourd'hui comme hier, se faisant sous de multiples dénominations. Donc on ne va pas forcément trouver, vous voyez, il faut gratter un peu pour aller chercher l'origine d'un certain nombre de méthodes et de techniques qui sont proposées aujourd'hui. La quatrième voie est syncrétiste. Elle a ceci de particulier qu'elle a englobé toute croyance, toute connaissance, toute philosophie existant au monde. Vous voyez, elle se situe donc dans un au-delà, permettant d'une manière syncrétique de tout assimiler. Il y a d'autres gourous hein, qui sont issus de là. C'est Rajneesh. Rajneesh, ce qu'il appelle aussi Bhagwan. Hein. Je vous avais entendu parler du rebirth. Hein. J'ai donc des techniques de ventilation, d'hyperventilation, pour aller chercher encore une fois dans son enfance, voire dans de vie intérieure, ce qui aurait pu se produire pour tendre la personne et pour, par ces méthodes-là, essayer de les libérer de leur passé, hein, de leur passé encore une fois, pour rompre toute filiation, pour ne plus être, pour n'avoir plus aucune allégeance finalement qu'à soi-même. Le professeur aussi, Oshawa, hein, du zen macrobiotique. Vous voyez, hein, les macrobiotiques. Vous voyez, tout ça a des ramifications, ils se connaissaient, il y a la même filiation. Étonnant, hein. Voilà. Et Oshawa, par exemple, c'est le traducteur japonais du livre que les plus anciens peut-être connaissent, de L'homme s'est inconnu, d'Alexis Carrel en japonais. Hein, qui est, voilà. Voilà. Alors, au début des années 60, vous avez un grand, grand centre de toutes ces techniques de développement humain qui est Esalen, à berceau du New Age, en Californie. La côte ouest des États-Unis est le lieu de toute cette émergence et de tous ces essais de syncrétisme et de perspective de nouvelle spiritualité, d'où a émergé, bien entendu, toute le New Age. Voilà. Son fondateur officiel, Michael Murphy, venait alors de passer un an à Auroville. Hein, vous voyez, il y a aussi des liens avec Krishnamurti, hein, et Mère. Vous voyez, on est dans tout un réseau dont ma génération, en tout cas ceux qui étaient un petit peu plus âgés, ont été friands. Hein. Vous savez, c'est toute cette perspective de ces jeunes qui allaient sur les chemins de Katmandou et qui allaient chercher une connaissance plus globale, plus plénière, et qui allaient rechercher finalement une sagesse en s'envoyant quand même de temps en temps quelques pétards avec un petit peu de LSD. Voilà. Et les trans, précisément, proposées hein, dans ces écoles initiatiques étaient effectivement, grâce à l'usage de psychotropes, qu'on dit aujourd'hui hein, substances entéogènes, hein, substances entéogènes, capables de faire l'expérience de Dieu en soi. Vous aviez à ce moment-là, je crois que c'est la mescaline, c'est ça hein. Et voilà, c'est un champignon. Alors, on va chercher dans les traditions chamaniques hein, aussi des initiations qui permettent, grâce à ces substances hallucinogènes, de faire des expériences hors limite. Voilà. Dans les milieux universitaires également, et même le CNRS, il existe en France une organisation nommée Centre international de recherche et études transdisciplinaires, ou CIRET. Cette organisation regroupe des gens de toutes disciplines, y compris des chercheurs du CNRS. De même que par le passé, des prix Nobel. On va chercher des gens qui ont de hautes qualifications dans leur domaine pour crédibiliser, d'une certaine manière, donner une touche, une note scientifique à ce type de recherche. Or, le fondement de l'organisation et les références de ceux qui dirigent ce CIRET révèlent clairement de l'ésotérisme, du syncrétisme religieux et de la psychologie transpersonnelle. Nous y reviendrons tout à l'heure, si nous avons le temps, avec Grof, Stanislav Grof, psychologie transpersonnelle, lui-même aussi dans la filiation de Gurdjieff. Alors, il y a aussi un cinéaste qui s'appelle Jodorowsky. Si vous, maintenant que je vous ai dit le nom, vous verrez, hein, si vous allez par exemple au Mans chez Doucet, vous verrez Jodorowsky qui a fait ces derniers temps beaucoup de livres sur le tarot, hein, sur la Kabbale. Et Jodorowsky est un grand initié de la quatrième voie. C'est lui qui a fait le film La Montagne Sacrée. Voilà. Voilà. Alors, Narenro, disciple de Gurdjieff, emmena une cinquantaine d'élèves d'Esaline à Arica au Chili pour apprendre l'énéagramme. Si bien que la méthode prit un grand essor d'emblée. On trouve aujourd'hui des écoles et des ateliers d'énéagramme partout dans le monde. Narenro était quelqu'un qui avait été initié très tôt aux techniques précisément du chamanisme. Voilà. Il y a aussi un autre théoricien qui est Icazo, qui a théorisé et qui a mis un certain nombre un vernis psychologique hein, sur l'énéagramme. Et la grande théoricienne de l'énéagramme, qui a fait un certain nombre de tests sur des milliers de personnes et notamment des étudiants, est Hélène Palmer, qui a écrit un certain nombre de bouquins. Et Hélène Palmer est le référent, par exemple, de l'IEDH, Mort de Froid, hein, qui est donc l'IEDH, c'est un centre que vous connaissez, hein, qui propose l'énéagramme, qui propose aussi la PNL. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont également. C'était quelqu'un qui était très proche de la communauté de l'Emmanuel. On y reviendra si vous voulez, parce que la charte même sur l'énéagramme a été co-signée par Pascalide, le père Pascalide de la communauté de l'Emmanuel, mais également Ephraim, qui se retrouvait pour une charte déontologique, pour, si vous voulez, éventuellement épurer cet énéagramme de ce qui pourrait être manipulatoire. Cependant, nous allons voir progressivement combien. Je pense que l'énéagramme n'est pas un outil fiable sur le plan scientifique de la psychologie, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de tests sérieux de manière habituelle dans les tests de connaissance de soi, ça sur le plan scientifique. Et puis, nous verrons aussi que nous rentrons dans une sorte de bocal où tout est dans tout. Vous voyez, c'est le principe de toute gnose d'assimiler tout à l'intérieur d'un système. Tous les systèmes de connaissances, hein, que ce soit le tarot, que ce soit le yiking, que ce soit les séphirotes, ce sont des systèmes extrêmement subtils, le yiking aussi, hein, donc chez les Chinois, ce sont des systèmes extrêmement subtils où vous pouvez faire tout rentrer dedans. Et donc nous sommes dans une perspective de type gnostique, où tout est compris et où vous pouvez rentrer progressivement dans cette initiation où vous avez l'impression d'avoir une connaissance sur tout le monde et sur l'univers. Revenons à cette perspective du serpent. Que dit le serpent à la femme? Le serpent lui dit « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez du fruit de cet arbre de la connaissance, du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » Vous voyez, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Eh bien, ça, c'est repris vraiment par les grands chantres hein, du New Age et de ces techniques de développement personnel. Vous avez Dieu en vous. Il suffit progressivement, par des exercices, par des techniques, d'accéder à ce divin en vous. Et vous n'avez absolument pas besoin de le recevoir d'une parole qui soit extérieure à vous. Voilà. Tout le mouvement psychédélique, je le disais tout à l'heure, avec Aldous Huxley, dans l'expérimentation et la promotion de drogues à l'usage de milieux éclairés, sentants et connus. Icazo, dont je parlais tout à l'heure, a eu reçu son initiation avec l'ayahuasca. Hein, je ne sais pas si vous avez vu sur des émissions à la télévision, il y a des charters entiers aujourd'hui de personnes qui vont recevoir l'initiation au Pérou ou dans la forêt amazonienne, grâce à cette liane qui est l'ayahuasca et grâce aussi à l'initiation d'un maître qui les font pénétrer dans des niveaux de conscience étonnantes. Ils deviennent des animaux, hein, ils deviennent serpents, ils deviennent guépards, ils deviennent, le grand oiseau des Andes, là, condor, etc. Vous voyez, ils vont s'assimiler progressivement et ils vont penser qu'ils font là une expérience du spirituel, hein, à partir de ces drogues entéogènes. Voilà. Alors, on va peut-être...